Deuxième émission de notre rétrospective 2019, les correspondances de Manosque nous offrent chaque année de belles rencontres. Le 26 septembre, sur notre antenne, nous avons parlé littérature, spectacle et musique, la vie quoi.
Il est 11h et c'est l'heure de retrouver François Malabave dans l'émission spéciale Correspondance. Bonjour François.
Bonjour James, bonjour à tous. C'est fait depuis hier 17h et pour la 21e fois, Manosque est entré en correspondance et Fréquence Mistral est également de la partie avec des émissions quotidiennes à 11h durant le festival. C'est un écrivain talentueux et reconnu, mais c'est aussi un manosquin et un ami de la radio. René Frénier, présent sur notre plateau, nous parlerons de son roman « Dernier arrêt avant l'automne » et de son programme durant les correspondances. Notre écrivain également talentueux et reconnu et aussi ami de la radio, décidément. Arnaud Catherine est présent, il évoquera la lecture ce soir de son dernier livre au titre si étrange et il nous dira pourquoi. Il entend des regards que nous croyons muets. C'est une lecture musicale avec vidéo que présente tout à l'heure Arnaud avec un complice musicien Mathieu Bayot. Et de musique, il sera question encore avec Théo Acola. Il a accompagné Jacques Bonafé hier soir au pays de Dracula et Théo également une référence de la scène alternative hexagonale. À tout à l'heure. Deux magnifiques bibliothécaires qui animent avec brio les apéros littéraires et le labo de l'édition depuis des années. Elles sont d'ailleurs au boulot en ce moment même devant la médiathèque d'Herbès, mais Sylvie Peson et Nathanaël Coriol nous ont accordé une belle interview. C'est la magie de la radio, elles ne sont pas là et pourtant on les entendra. Olivier Delahaye, lui, fait l'apologie du silence, mais c'est pour mieux lire. Vice-président de l'association Silence, on lit. Je devrais arriver à le faire parler, mais on ouvre comme d'habitude cette émission avec Olivier Chaudançon pour le programme des réjouissances aujourd'hui. Olivier Chaudançon, c'est parti pour les 21e correspondances de Manosque.
Oui, avec une journée qui démarre en direction du public jeunesse, puisqu'on va retrouver à 10h au Théâtre Jean Le Bleu une création, le Till Show à partir de Till l'Espiègle. Puis évidemment, la journée va se dérouler aussi pour le public adulte. Et là, on commence à 11h ensemble avec le Labo de l'édition. Alors le Labo de l'édition, c'est un petit éditeur, petit mais précieux par ses publications, les éditions du Chemin de Fer, qui a soumis des manuscrits aux membres du comité de lecture en leur faisant la proposition suivante. Mettez-vous dans la peau d'un éditeur et voyez, est-ce que ce texte, il faut le publier ou pas? S'il faut le publier, est-ce qu'on peut y apporter des corrections ou plus exactement des suggestions que l'on pourrait faire à l'auteur? Donc voilà, se mettre vraiment dans la peau de celui qui se pose la question, je publie ou je ne publie pas, j'interviens sur le texte ou je le prends tel quel. C'est toujours très enrichissant d'assister à ces débats-là. Dans l'après-midi, alors on démarre notre rendez-vous classique, aimé et attendu, que sont les siestes acoustiques de Bastien Lallemand, avec ses invités, musiciens d'une part, on peut citer Albin de la Simone, on peut citer Maëva Lebert par exemple, et puis des écrivains invités du festival qui viennent jouer cette alternance de lecture de textes et de chansons. On poursuit l'après-midi avec un auteur qu'on affectionne ici, qui est Philippe Besson, et qui poursuit son cycle autobiographique. Il va nous évoquer ses deux derniers livres, qui sont en fait des mémoires de sa jeunesse. Et le tout dernier, Un dîner à Montréal, poursuit cette histoire qui lui est personnelle. 16h30, quelqu'un qu'on aime beaucoup. On ne rate pas une occasion de l'inviter, soit pour de la musique, soit pour des textes et des récits. C'est Bertrand Belin. Alors cette fois-ci, il vient sans musique. Il vient avec son troisième livre publié chez POL. Il s'appelle Grand Carnivore, où l'on verra que Bertrand Belin est un grand styliste aussi. On le sait à l'écoute de ses chansons. Je vous invite vraiment, si vous connaissez pas ses textes, ses livres, à aller découvrir cette facette-là de l'artiste complet, Bertrand Belin. Puis alors 18h, il va falloir choisir parce qu'il y a beaucoup de choses en parallèle. Une très belle rencontre entre Louis-Philippe d'Alembert et Beata Oumoubeyi-Mérès. Louis-Philippe d'Alembert qui écrit l'un des grands livres de la rentrée, Mur Méditerranée, sur le phénomène que l'on peut qualifier par réduction et simplification des migrants. Et puis Beata qui fait un récit poétique d'un moment effroyable de l'histoire contemporaine, qui est le génocide au Rwanda. Donc deux livres vraiment empreints du contemporain et des drames contemporains, mais la littérature permet de à la fois comprendre, explorer, ressentir et traverser ces moments de grande dureté. Mais encore une fois, la littérature nous le fait passer, nous l'explique et nous éclaire sur le monde. Et puis, dans le même temps, 18h également, il y aura une rencontre autour de Giono. On s'approche des 50 ans de sa mort. Il y a un livre absolument magnifique que vient de signer Emmanuel Lambert, qui s'appelle Giono Furioso. C'est un peu une biographie, un peu un essai. En tout cas, ça nous éclaire de façon très subtile et travaillée sur qui était vraiment Giono. Et puis, c'est fait de façon extrêmement vivante parce que l'auteur est également présent dans le livre et se met vraiment en face de Giono et le questionne et s'interroge sur Giono l'homme, Giono le créateur. Vraiment, c'est une biographie extraordinairement réussie à mes yeux. Et elle va dialoguer avec Clémentine Mélois, qui est auteure, plasticienne, que l'on connaît parce qu'elle est très drôle aussi. Elle fait beaucoup de détournements. Elle a fait des détournements de couverture de livres par une publication qui s'appelait Sans Titre. Voilà, donc elles vont échanger autour de Giono. Il faut aussi préciser qu'Emmanuel Lambert est la commissaire de l'exposition Giono au Mucem. Donc voilà, deux personnes très informées sur Giono qui vont nous donner plein d'éléments de sa vie et de façon très, très joyeuse et facétieuse. Et puis une troisième proposition à 18h, décidément il va falloir choisir son camp et ne pas avoir la main qui tremble. Arnaud Catherine, que l'on connaît bien en correspondance, il fait partie de l'équipe, mais on a souhaité l'inviter là en tant qu'auteur. Il a signé un recueil de nouvelles très beau à l'hiver dernier, « J'entends des regards que vous croyez muets », un titre déjà extrêmement fort et éloquent. Et il en a conçu une lecture musicale, donc accompagnée par le musicien-compositeur Mathieu Bayot. Voilà, donc lecture musicale dans la petite salle du théâtre Jean le Bleu. Ceux qui ont envie de se promener autour de Manosque, il y a une rencontre avec René Frémy à l'Écomusée de l'Olivier à Volx. Et puis la soirée, à 21h, grand théâtre, grand texte, si j'ose dire, un texte d'Ahmet Altan, un écrivain, journaliste turc, emprisonné depuis plus de 3 ans, condamné à perpétuité, à la suite du putsch manqué contre le président Erdogan en Turquie. On sait que ça a entraîné une purge tout à fait accablante et excessive. Et donc voilà, Ahmet Altan est emprisonné. Ce sont quasiment des lettres de prison qu'il nous envoie. Mais avec une puissance stupéfiante, une foi en l'écriture, en l'imaginaire, en la vie, en la littérature. Donc on est vraiment au cœur de l'humain à travers ce texte-là. Il est dans une situation désespérée, mais il ne manque pas de distance et de drôlerie. Donc il est incroyablement dans la vie. Voilà, donc c'est un texte important et il sera magnifiquement dit. Je le sais par avance, si j'ose dire, parce que c'est le fait d'un comédien magnifique qui s'appelle Nicolas Bouchaud, qui est un des très grands lecteurs que l'on connaisse sur la scène française. Voilà, donc je pense que la soirée va être marquante. Et puis nous terminerons ce jeudi soir en compagnie de Blandine Rinkel, artiste en résidence à Manosque. Je dis artiste parce qu'elle est à la fois auteure, musicienne, comédienne, elle fait plein de choses. Et elle va venir en compagnie de son collectif musical qui s'appelle Catastrophe. Et donc ce sera un concert littéraire de Blandine Rinkel et Catastrophe.
Une soirée qui terminera en catastrophe donc à Manosque aujourd'hui pour les correspondances. Retour en plateau pour accueillir nos invités de cette deuxième émission durant les correspondances, et nous allons parler avec René Frény de son dernier arrêt avant l'automne, un roman qui est paru chez Gallimard. Bonjour René Frény. On va avoir des difficultés pour se tutoyer, se vous voyez. On a l'habitude de se tutoyer évidemment, René, donc si ça vous échappe ou si ça t'échappe, ça n'est pas très très grave. Alors, dernier arrêt avant l'automne, c'est un polar tarabiscoté, fin et cassant comme de la faïence. Il se déroule d'ailleurs à Moustier-Sainte-Marie, dont c'est la spécialité. Et c'est dans ce cadre que René Frény a choisi de placer son intrigue, plus précisément au cœur de l'imposant monastère de Ségriès. Au départ, la hantise de tout écrivain qui frappe le personnage principal, la panne de l'écriture, manque d'inspiration, lassitude ou ennui lancinant. Il trouve refuge à Moustier pour un contrat étonnant à 1000 euros par mois d'un employeur qu'il ne connaît pas et ne verra jamais. Il s'agit de garder et entretenir cet antique monastère et ses abords arborés et luxuriants. Pascal et Aline, ses amis libraires ariès, jouent un rôle important dans Dernier arrêt avant l'automne. Leur amitié, l'amour des livres et plus encore sont la bouée de sauvetage de l'écrivain. On suivra son installation puis son séjour entre solitude et travail physique jusqu'au jour où il fait une découverte étrange, un soulier dans la terre, et ce soulier est au bout d'une jambe. C'est le début du polar. À partir de là, la tranquillité du lieu est chamboulée et le roman s'emballe. René, quelle est la part de la fiction et de l'imagination dans ce roman ?
J'ai pas une grande imagination, mais je marche beaucoup. J'arrive à la radio, mais je viens de remonter le Verdon, de Vinon sur Verdon, jusque pas tout à fait à Gréoux, mais il y a un très joli chemin que je fais régulièrement, et j'écris en marchant. Je n'ai même pas de carnet sur moi, je marche, puis je ramasse parfois un champignon. Ce matin, j'ai mangé des figues, j'ai ramassé quelques noisettes, parce que c'est la période des figues, des noisettes, donc je marche. Je mange une figue, ou une mûre d'ailleurs, je fais de la gelée de mur. J'évite les chemins détournés parce qu'il y a beaucoup de chasseurs actuellement, et j'écris en ma tête en marchant. Je ramasse un mot, un champignon, j'écris dans ma tête une phrase, et quand j'arrive chez moi, je me refais un café, et là je m'assois devant mon cahier. Et je m'aperçois qu'on écrit bien en marchant parce que tout est extrêmement attentif. La plante des pieds, chaque nerf, l'odorat, on entend tous les bruits de la campagne, je regarde les poissons. C'est là que j'écris le mieux, quand j'avance sur les chemins. Donc ce livre dont tu parles, c'est avant tout un roman plutôt sur les forêts, un roman écologique, puis ça devient, comme tu dis, avec la découverte de ce pied, un roman noir. Parce que l'être humain, c'est-à-dire moi-même, vous, on est à la fois les chemins de Provence, mais aussi la noirceur de la Provence. Et j'aime bien dans mes romans parler de la lumière autour de Manosque, sur tous les chemins, et parler de cette obscurité qui est en moi aussi. Sinon, je ne ferais qu'un roman écologique, mais dans l'écologie, il y a aussi la lutte contre le sapiens, contre tous les dégâts que nous avons faits, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté du roman noir. Nous avons quand même détruit en 40 ans 60% des espèces vivantes autour de nous. Donc nous sommes de grands prédateurs, et quand je dis chemin, je me balade en lisant Giono, bien entendu, je me balade sur les chemins que Giono a connus avant moi et mieux que moi, et j'essaie de les retrouver intacts, comme ils sont dans les œuvres de Giono. Mais je ne les retrouve pas intacts, ils sont très abîmés. Et toutes ces espèces que l'on a détruites, que ce soit des abeilles, des guêpes, que ce soit des coccinelles, que ce soit des vers de terre, elles ont disparu en grande partie. Et dans mes livres, je ne peux pas faire autrement que de dire ce que nous sommes. Nous sommes quand même de grands prédateurs.
On voit dans tout ce que tu viens de dire, René, l'ombre de Giono qui surgit. On retrouve dans ton livre la présence de la nature, et c'est commun aussi avec Giono, une nature, pour ça, dans ton livre, envahissante et parfois hostile, dans laquelle le personnage principal, qui te ressemble un petit peu, combat corps et âme pour défricher et aménager les espaces arborés jusqu'à sa lugubre découverte. Une nature envahissante, en fait, qui a le dernier mot et la face sombre de l'homme. Tout ça mélangé.
Oui, c'est dans cette nature que j'écris le mieux à 20 ans. À 20 ans, j'avais déserté l'armée, ça, ici à Manosque, on le sait. Et je me suis caché dans un monastère au-dessus de Bastia. Les gendarmes avaient retrouvé...
Déjà un monastère, donc.
Mais je me suis inspiré de ce monastère pour écrire ce livre. Ben, j'avais trouvé d'abord une place de 10 jockeys dans une boîte de nuit, et là, les gendarmes m'ont retrouvé, donc je me suis caché dans un monastère. Et dans ce monastère, je défrichais un peu, j'étais nourri, logé, et je me suis rendu compte que la phrase de Victor Hugo était vraie, qui a peur d'être pauvre ne peut pas être libre. Et j'étais très pauvre puisque je n'avais pas un sou, j'avais ma soupe comme tous les moines, il y avait 7 moines et le père, donc on m'apportait ma soupe, je défrichais un peu autour des murs, mais j'étais profondément heureux, je savais que là on ne viendrait pas me chercher. Je lisais, je rêvassais, je devais dormir beaucoup parce que les moines dormaient énormément. Contrairement à ce qu'on peut penser, on pense qu'un moine pense beaucoup, un moine dort beaucoup. Et je dormais pas mal moi aussi. Donc je me suis rendu compte que très près de la nature, dans ce monastère, j'étais libre et heureux. Et c'est là que j'ai commencé à lire abondamment et à écrire quelques mots. Donc j'ai retrouvé ce monastère pour écrire « Dernier arrêt avant l'automne ».
Alors la lecture, évidemment, l'écriture, j'ai choisi un petit extrait de ton dernier roman, sur l'écriture justement, et on va voir que ton style particulier. J'écris le mot tilleul, et ça tombe bien ici, c'est le boulevard des tilleuls à Manosque. J'écris le mot tilleul et je suis tout de suite sous un tilleul, le mot lessive, et je revois ma mère étendre ses draps dans la lumière du jardin et la joie de sa jeunesse. Rien n'est plus magique que l'écriture, elle va chercher des débris de vie dans des replis secrets de nous-mêmes qui n'existaient pas 5 minutes plus tôt. On croit avoir tout oublié, on allume une lampe, on se penche sur un cahier et la vie entière traverse votre ventre, coule de votre bras, de votre poignet, dans ce petit rond de lumière, un soir d'automne, dans n'importe quel coin perdu de l'univers. C'est ce qui fait la différence avec l'animal, l'écriture ?
C'est notre langage si développé qui fera notre perte et qui a fait la beauté de l'humanité, de toute la création. Mais c'est une torche, l'écriture. Moi, je me mets, comme je le dis là, sous ma petite lampe le soir, et c'est comme si j'avais une torche à la main que je venais d'enflammer, et j'entre dans des galeries souterraines, et on va de plus en plus loin en soi quand on écrit. On a l'impression qu'on creuse sa propre galerie. Et on s'enfonce dans ce que certains appellent l'inconscient, d'autres la mémoire. En tout cas, il y a tout un tas de souvenirs oubliés qui remontent lorsqu'on écrit. Là, tu as parlé de... Je t'ai tutoyé, tu vois. Allez, laissons le naturel. Le mot tilleul, mais que tu écrives le mot figuier, le mot septembre, le mot plaine. Tu écris un mot et tu vois cette plaine qui s'ouvre devant toi avec des ombres qui s'allongent. Et tu pensais que la plaine était un mot abstrait. Tu écris le mot plaine et tu la vois. Tu vois même du gibier qui traverse la plaine le matin, la rosée. Et plus tu écris, plus tu entres et tu marches dans cette plaine. J'ai écrit le mot cuisine, par exemple, le mot cuisine, et j'ai écrit toute mon enfance à partir de ce mot cuisine. J'ai vu apparaître autour de moi, en écrivant, tout ce qu'il y avait dans ma cuisine quand j'avais 3 ans, 4 ans, une table en noyer, une pile, comme on disait, une pile avec cette pierre de Marseille, calcaire, et j'ai vu la cuisine se recomposer, et à partir de cet évier, de cette pile, de cette table en noyer, toute mon enfance est revenue, que j'avais complètement oubliée. C'est l'écriture qui m'a ramené toute la mémoire. Donc c'est le travail de l'écrivain de ramener sa propre mémoire d'abord, et ensuite le travail du lecteur, à partir du texte, de remettre en place sa propre mémoire. C'est le rapport dialectique qu'il y a entre le lecteur. C'est un travail d'émotion, de mémoire. On soulève toutes ces émotions, d'abord pour soi, puis pour le lecteur.
On va revenir avec toi dans un instant sur ton enfance, René, mais on va reprendre un petit peu le fil de l'intervention sur Dernier arrêt avant l'automne, avec des personnages secondaires. Il y a évidemment les libraires, mais il y a aussi Oké Dingy, qui est un personnage succulent, l'évadé indien. On y croise également des gitans vite soupçonnés, vite innocentés, et des gendarmes têtus. Et puis on a aussi une petite boule de poils ronronnante, Solex, un petit chat affectueux, un petit peu ange gardien du solitaire. Et aussi dans ce livre, tu lèves une partie du voile, mais c'est pas la première fois dans ton œuvre, sur ton enfance, sur la Durance, sur Saint-Même, sur Dauphin, ce que tu vivais ici et cette magie exceptionnelle que le petit Marseillais que tu étais retrouvait dans la Haute-Provence.
Ben, nous habitions une banlieue, à l'époque on disait même pas quartier, on disait banlieue, c'est les quartiers nord, mais Marseille l'été était très pollué, très brûlant, les rues étaient saturées de déjà saturé de gaz carbonique, et mon père, qui était peintre en bâtiment, avait trouvé un petit cabanon à Manosque. Comme il voyait travailler les maçons autour de lui quand il peignait les murs, il a restauré ce petit cabanon, et nous y venions en septembre, parce que mon père était chasseur, à Marseille il y avait encore quelques lapins, mais ici il y avait du gibier. Et donc il venait dans ce cabanon avec nous, et on respirait beaucoup mieux. À l'époque, on rentrait le 1er octobre à l'école. Et tout le mois de septembre, je le passais ici. Et quand j'ai eu l'âge d'avoir un vélo, je mettais 5, 6 heures, 7 heures pour monter de Marseille. Mais mon plaisir, c'était de monter sur mon vélo dans les quartiers nord, de pédaler jusqu'au pont Mirabeau. Et là, j'appuyais mon vélo contre la petite chapelle qu'il y a encore, après ce pont Mirabeau, et je plongeais dans la Durance. Et j'avais l'impression d'entrer dans ce pays bleu, dont parle Giono, bien entendu. Mais je quittais cette ville noire, cette ville polluée, cette ville qui était déjà assez criminelle, pas autant qu'aujourd'hui, pas autant barbare qu'aujourd'hui, mais noire en tout cas déjà de pollution, et j'entrais, dès le pont franchi, dans le pays bleu. Et là commençaient des jours merveilleux, parce que tous les jours, j'allais me baigner dans deux rivières, qui malheureusement n'existe quasiment plus, la Laye et le Largue, qui coulaient dans la petite vallée sous Saint-Même, mais il y avait un mètre cinquante d'eau, c'était des vraies rivières. Je parlais tout à l'heure des sapiens, de ce que nous sommes. Nous avons tari ces deux rivières, la Durance existe encore un peu, mais enfin elle n'est que l'ombre d'elle-même, et ces deux rivières, c'est un peu d'eau croupie qui coule, où aucun poisson ne peut survivre. Alors qu'à l'époque, c'était des rivières vivantes, où il y avait des écrevisses, il y avait des truites, on y rencontrait de tout. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien, il y a quelques mares de boue et d'eau croupie, donc c'est un désastre ce que nous avons fait. Pour moi, ça reste le Pays Bleu, parce que les Basses-Alpes, c'est encore un département magnifique, mais je la retrouve plus quand je lis Giono, quand je lis Le Chant du Monde et que je remonte les rivières, quand je lis Un roi sans divertissement, même si tout ça se passe un peu plus haut, dans le Trièves, ou tout simplement quand je lis Colline, qui est le premier livre que j'ai lu de Jean Giono quand j'étais dans cette prison militaire, je retrouve cette province que j'adore, ce Pays Bleu, et donc, voilà, moi, dès le matin, je mets mes chaussures et je pars marcher sur les chemins.
Et plus besoin de prendre un vélo pour y être, en plus.
Et plus besoin de prendre un vélo.
René, pendant les correspondances, tu ne chômes pas. Alors, les correspondances, pour toi, c'est quelque chose d'un peu particulier, parce que tu connais bien, et une partie des ébats littéraires, j'ai pas dit les ébats littéraires, se déroulant sous tes fenêtres, quasiment. Donc, avant un apéro littéraire Place d'Herbès, tu es avec également Louis-Philippe d'Alembert. C'est à Volx, ce soir, que tu vas attendre l'auteur.
Bossan, qui est un ami, avait créé cet écomusée, et c'est un lieu magnifique.
C'est l'écomusée de l'Olivier.
L'écomusée de l'Olivier. Et puis François Penalva, qui était de mon quartier, la famille Penalva était de mon quartier à Marseille, et il a recréé les petites tables, le potager moderne. C'est un cuisinier extraordinaire, parce que la famille Penalva sait tout faire, hein. Ils ont construit des maisons, mais ils construisent des repas. Donc ce soir à l'écomusée, bon, moi je fais une petite intervention, et après il y a ce buffet magnifique organisé par François.
Hein, et puis, avec son épouse Véronique aussi.
Avec Véronique.
Le potager moderne.
Le potager moderne.
Deux anciens libraires en plus, tiens.
Ils avaient le petit pois. C'est pas étonnant qu'ils aient créé le potager, parce qu'ils avaient créé le petit pois.
Oui, donc c'est vrai.
Ils étaient déjà dans les légumes. Alors ce petit pois existe encore, mais eux, ils plantent leur propre petit pois du côté de Gina Servi. Ce sont des gens extraordinaires. Donc il y a quelques personnes qui viendront pour moi, puis il y a quand même beaucoup de monde qui viendront pour le buffet, parce que si vous voulez manger gratos ce soir et très bon, il faut venir au potager moderne.
Et puis demain, non, c'est ce soir, non, c'est demain que tu seras en.
Et demain avec Louis-Philippe.
Avec Louis-Philippe d'Alembert.
C'est la première fois que je vais dialoguer avec un roi. Demain, je suis avec Louis-Philippe devant la bibliothèque d'Herbès.
Un roi d'Haïti, tu te rends compte?
Un roi d'Haïti.
Extraordinaire. C'est extraordinaire. Merci encore, René, d'avoir été mon invité. Puis continue à écrire et à nous emmener sur des chemins tortueux. Je ne dis pas des chemins noirs parce que c'est un peu particulier, mais il
Je remercie Sylvain qui hier soir a salué. Moi j'étais dans le public, je suis allé l'écouter parce que c'était un grand intellectuel. Et donc Sylvain a salué ce livre. Il a dit qu'il avait lu dans les années 80 et c'est pour ça qu'il s'était inspiré du titre. Mon roman s'appelle Les Chemins Noirs. Il a appelé Sur les Chemins Noirs. Et je le remercie parce que c'était gentil de sa part de saluer ce livre.
Alors tout à l'heure il a dit Louis-Philippe, c'est Louis-Philippe d'Alembert. Sylvain, c'est Sylvain Tesson. Il faut rajouter évidemment les patronymes des personnes qui sont des amis
et
des collègues écrivains pour René Frény. Il y a aussi il y a d'autres amis ici à Manosque que tu as qui s'appellent Sylvie et Nathanaël par exemple.
Bien sûr.
C'est tout simplement Sylvie Peson et Nathanaël Coriol qui sont ces magiciennes qui animent les apéros littéraires, le labo de l'édition et que j'ai interviewé. Je vous propose d'écouter Sylvie et Nathanaël justement. Nathanaël Coriol et Sylvie Peson, vous travaillez à la médiathèque d'Herbès à Manosque et les correspondances pour vous, ça veut dire apéro littéraire.
Tout à fait, apéro littéraire, on ne fait pas que boire et manger, surtout on reçoit deux auteurs chaque matin pour leur dernier bouquin. Nous avons choisi des extraits de livres pour lire devant le public avec nos lecteurs, puis Nathanaël et moi nous interviewons ces deux auteurs qui montent sur scène.
Vous avez donc des contacts particuliers avec les auteurs.
Oui, et d'autant plus que, comme le disait Sylvie, 15 jours auparavant, on aura vraiment décortiqué tous leurs livres et vraiment ce sera passionné pour chacun des 6 livres et donc des 6 auteurs que nous allons recevoir. Et du coup, ça, en interview, ils le sentent. Ils sont vraiment, un, touchés par la lecture de nos lecteurs, hein, où on leur dit bien que ce ne sont pas des professionnels, et deux, par le fait que l'on connaît parfaitement leurs livres. Et il n'est pas rare qu'on en soit félicité, alors écoutez, on se permet de le dire, c'est un petit... on en est fiers, que nos auteurs aient été enchantés d'être interviewés par nous, parce qu'en fait, souvent, on a mieux lu leurs livres que certains journalistes un peu plus en vue ou pas tentés.
Comment est-ce que vous choisissez justement les auteurs et leurs livres ?
Alors, les auteurs sont choisis par le staff des correspondances. Parfois, on peut leur dire qu'on souhaiterait recevoir tel ou tel auteur, mais bien souvent, le choix est fait par Olivier Chaudançon, Evelyne Pradivelot et le staff des correspondances.
Et puis après, il y a un apéritif.
Bien sûr, bien sûr. Il y a un apéritif qui est préparé par les membres du comité de lecture, parce que j'ai oublié de dire que tout ça, c'est le comité de lecture qui l'organise. Donc, Nathanaël et moi, mais également les correspondances et nos lecteurs qui, outre le travail intellectuel de préparation des lectures, composent également des petites spécialités à déguster à la fin de la rencontre. C'est l'occasion de discuter avec les auteurs autour de dédicaces et autour d'un verre. Voilà.
Un moment très convivial donc. Vous avez également mis en place depuis quelques années l'opération qui s'appelle le Labo de l'édition, Nathanaël.
Oui, en effet. Nous avons reçu pendant 3 ans le nouvel Attila avec son éditeur Benoît Viraud. Et il nous a été proposé d'étudier donc des manuscrits, alors tapuscrits, hein, ils sont tapés, qui n'ont pas encore été édités. Et nous nous réunissons, tel un comité en fait de lecture de maison d'édition, pour dire si oui ou non nous souhaiterions que ce manuscrit soit édité, et si oui, y aurait-il des choses à changer ?
Et ça vous est arrivé de demander des modifications ?
Tout à fait, et elles ont été entendues par nos éditeurs, et on a eu le plaisir de voir éditer des livres dont nous avions discuté sur scène, et voir les modifications qu'effectivement, je pense que les éditeurs avaient également vu les modifications à apporter, mais quand nous sommes sur scène, je vois qu'ils prennent des notes pour qu'ils prennent en considération nos remarques. Donc sur scène, nous sommes une petite dizaine, donc nous deux, puis nos lecteurs, et un débat souvent acharné, ce livre sur scène, avec les pour et les contre tel ou tel manuscrit. Au début, je me disais que cet exercice allait être un peu rébarbatif pour le public, puisque ce sont des manuscrits et que personne ne les connaît. Et finalement, le public adore cet exercice et ça fera 5 ans, je crois, cette année que nous le renouvelons. Nous avions commencé avec le nouvel Attila et nous poursuivons ce travail avec les éditions de Chemin de Fer.
Est-ce que je peux vous demander une question très personnelle à toutes les deux, un souvenir particulier de aussi bien de vos apéros littéraires ou bien du labo de l'édition Sylvie par exemple?
Alors moi je me souviens avec beaucoup d'amusement d'une rencontre l'année dernière avec François Bégodeau et Serge Jeancourt, où nous avions lu un extrait particulièrement sur l'épilation des femmes. On avait choisi de lire cet extrait qui était très drôle pour apporter un peu de légèreté à ces lectures. Et François Bégodeau avait pris à partie gentiment et l'interview s'était finie dans un grand éclat de rire.
Nathanaël ?
Alors, moi, c'est peut-être la rencontre avec Maria Majidi, car en ce temps-là, nous pouvions collaborer avec l'ADREP, dans un organisme de formation qui accueillait des jeunes de 18 à 50 ans, en fait, et des un petit peu moins jeunes. Et il y avait des primo-arrivants, c'est-à-dire des jeunes filles qui arrivaient d'Algérie et qui avaient vécu, comme Mariam Majidi, en fait, eh bien, cette séparation d'un pays natal. Certaines avaient encore énormément l'accent, d'autres ont même fait l'effort d'essayer d'apprendre, parce qu'elles lisaient donc les caractères arabes, même si c'est pas la même langue, hein, évidemment. Elles avaient essayé vraiment d'apprendre à lire le persan et Maria Majidi a été extrêmement touchée par tous ses efforts et tous ses accents qui finalement émaillaient en fait son enfance et son livre, même si c'était pas les mêmes, mais toute cette appropriation de la langue française.
Arnaud Catherine a écrit « J'entends des regards que vous croyez muets », c'est aux éditions Verticales, il est à nos côtés. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors c'est un livre fait d'instantané, volé, dira l'auteur, une soixantaine de récits brefs où il est témoin et parfois acteur de rencontres plus ou moins improvisées et dont il garde la trace dans sa mémoire et sur papier. En le feuilletant, on croise des personnages dans quelques secondes parfois de leur vie. Est-ce vrai, est-ce faux, peu importe, ce sont des tranches de vie couchées sur le papier, sans liaison, si ce n'est le périscope de l'auteur. Ainsi, une vieille dame, une caissière, un voisin étudiant, son psychanalyste, un jeune naturiste ou une mère et sa fille qui s'émancipent traversent le dernier ouvrage d'Arnaud Catherine. Je le fais très rarement, pour ainsi dire jamais, mais je vais me plier à l'exercice facile des animateurs littéraires. Je vous lis la quatrième de couverture, c'est évidemment entre guillemets. Je passe mon temps à voler les gens. Dans le métro, dans la rue, au café, sur la plage, ce peut être une femme, un homme, un adolescent, une enfant, un couple. J'ai toujours un carnet et un stylo sur moi. Je tente de les deviner. Aucun ne doit me rester étranger. Je veux les garder. Je finis par les inventer. C'est ce que je nomme voler. Comment est née cette idée, Arnaud, de ce livre ?
D'un vice. D'un vice que nous sommes beaucoup à partager, consistant à être attiré par l'opacité des gens qu'on croise, des inconnus, cette envie de savoir quelle vie est nichée derrière l'ordinaire des apparences, quoi. Voilà, vous croisez quelqu'un qui va d'un point A à un point B, à qui vous ne parlerez pas, qu'est-ce qui l'anime, ce visage lisse, ordinaire, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Je pense que ça a commencé avec les fenêtres. Quand on se promène de nuit dans une ville et qu'on voit des fenêtres allumées, qu'on distingue des silhouettes, c'est très attirant, ça. Moi, j'ai toujours envie d'ouvrir la fenêtre. Et c'est ça, peut-être la définition de la fiction aussi, une définition possible de la fiction, quoi. Un détail qui passe, qui accroche votre regard, et de là, votre imaginaire va affabuler. Voilà. Donc c'est parti de ça. Une habitude de regarder les gens comme, j'allais dire comme tous les écrivains, mais comme beaucoup de gens. Sauf qu'à un moment donné, j'ai commencé à prendre des notes, et à un moment donné, j'en ai fait un projet littéraire.
Et l'éditeur a suivi ? Comment ça se passe ? Il faut arriver à les convaincre de...
Ah non, pas du tout. Non. Ils étaient intrigués. Et puis surtout, ils savaient que je suis dans une période où j'ai assez peu envie d'écrire de romans. Je sortais d'un recueil de nouvelles, hein, pas exactement l'amour, où j'avais renoué avec la forme courte. C'est là, au fond, que moi, je suis né à l'écriture quand j'étais ado, la forme courte. Donc, et puis je suis hanté, comme tout à chacun, par la peur de radoter. Donc, non, ils étaient intrigués. Et après, on a beaucoup bossé sur le livre, comme d'habitude. On a énormément coupé, qui est un jeu auquel je me plie, bien volontiers maintenant, parce que c'est dans l'intérêt des livres. Et puis surtout, il y a une chose assez ludique qui a consisté, comme quand on fait un album de musique, Théo connaît ça, à réfléchir à l'ordre. Où est-ce qu'on met le single, si tant est qu'il y en ait un? Où est-ce qu'on met le slow, etc. C'est-à-dire comment créer un rythme, un relief, veiller à ce qu'il n'y ait pas deux scènes de café juxtaposées, etc. Donc ça, réfléchir à la tracklist, comme on dit en musique, c'était au fond comme un jeu de société. Donc on s'est bien amusé avec mes éditeurs.
Avec des différences, parce qu'il y a des nouvelles qui vont jusqu'à 3 pages, par exemple, et puis il y en a avec 2 phrases ou même pas 1 page. Il faut équilibrer ça aussi.
C'est ça la grande liberté, je trouve, de la forme courte. Et je l'avais déjà expérimenté dans mon recueil de nouvelles qui s'ouvrait sur un récit de 60 pages et qui se poursuivait, par exemple, avec une scène de une nouvelle de 2 pages. C'est-à-dire qu'on peut vraiment y aller au caprice. Quand c'est fini, il n'y a pas bavarder, quoi. Le roman, c'est une course au long cours et il y a toujours des moments où je cale. Et on ne connaît pas ça dans la forme courte. On vit des histoires sans lendemain et c'est bien aussi les histoires sans lendemain parfois.
Alors Arnaud, on connaît vos talents de lecteur, de chanteur également. Je me souviens d'un Frère Animal magnifique avec Florent Marché, entre autres. Les lectures aussi de François Bégodeau qui ont marqué les correspondances ici à Manosque. Je vais vous demander de faire cet exercice un peu particulier pour nous. C'est de nous lire un extrait de votre choix de « J'entends des regards que vous croyez muets ». Vous allez nous expliquer après ce titre.
« Les jours où je trouve à écrire dans mon carnet, me vient le contentement bienheureux de qui a fait l'amour et a bien fait l'amour. Et puis parfois j'ai envie, très envie, je pars en chasse, excité, je guette, je cherche une heure, parfois davantage, mais la vie ne m'envoie rien ni personne. Ça ne mord pas. Où est-ce mon regard qui ne s'accroche à rien? J'arpente la ville, la plage, je déshabille le restaurant, le train, la rame de métro, mais c'est tourné comme lion en cage. La perspective du festin s'éloigne tristement. Je m'acharne, je croise une fille, un garçon, une femme, un vieux, je fomente un début d'histoire, dicte quelques mots à mon portable, devinant confusément que ce livre n'en voudra pas. Détresse de l'auteur sans sujet, du voleur sans objet de tentation. Je rentre alors chez moi, je rends page blanche, enfin, ces mots-là, penauds plutôt que rien.
Un extrait donc du livre d'Arnaud Catrine, lu par Arnaud Catrine. La signification de ce titre, j'entends des retards, des regards que...
Oh, c'est un beau lapsus, j'entends des retards.
Ouais. J'entends des regards, ça nous parle, nous, en radio, les retards. J'entends des regards que vous croyez muets, Arnaud.
C'est un vers de Racine, qui initialement dans Britannicus est au futur. J'entendrai des regards que vous croirez muets. Et en fait, je ne trouvais pas de titre pour ce livre. Le titre de travail, c'était « Journal d'un voleur », et non pas « du voleur ». Mais vous imaginez bien que mes éditeurs ont estimé que la parenté avec Genet était impossible, quoi. En plus, Genet n'est pas du tout un auteur qui compte pour moi. Enfin, c'est un auteur tout à fait digne de ce nom, mais qui n'est pas dans mon panthéon. Donc, faire une allusion à Genet, c'était absurde. Et c'est ma meilleure amie, qui est par ailleurs éditrice chez Flammarion, qui est retombée sur ce vers de Racine, qui a trouvé que vraiment ça correspondait exactement à mon projet, et je l'ai mis au présent, et voilà. Et j'ai publié ce livre tout à fait conscient que personne n'arriverait à le retenir, mais je trouvais ça chouette qu'on se dise, que mes quelques lecteurs se disent, j'entends des retards que, je sais pas, le livre d'Arnaud Catrine.
Très bien, c'est une belle chose. Moi, j'ai choisi un texte, Arnaud, que je vais vous lire, là. Et puis, après, on parlera des correspondances. Alors, il est très court, le texte que j'ai choisi. C'est entre guillemets. Je te préviens, je n'ai pas du tout envie de me retrouver dans ton livre. Tu te prends pour Sophie Calle ou quoi? Voilà, j'ai choisi ce texte.
Est-ce que je dis qui m'a dit ça? C'est une romancière qui vient souvent en correspondance. Ouais, c'est un jour, on était au festival Oh les beaux jours à Marseille, et on avait fait une fugue, et on était sur l'île du Frioul, cet endroit juste tellement magnifique. On pique-niquait, et je lui racontais mon projet, et à un moment, cette romancière, donc, que j'aime beaucoup, m'a regardé et m'a dit ça. Je veux pas y être, tu parles pas de moi, tu te prends pour Sophie Calle ou quoi?
Très belle remarque. Et en même temps, bon, c'est un hommage à Sophie Calle, quelque part.
Bien sûr.
Un peu,
hein,
un
bien
peu.
Sûr.
Arnaud, vous faites partie depuis de longues années de l'équipe organisatrice des correspondances.
17 ans, j'ai compté.
17 ans déjà. Et pas une ride, enfin. Bref. Qu'est-ce que vous en retenez de ces 17 années?
Qu'est-ce que j'en retiens? Que la fidélité, c'est une belle chose. Que les choses qui durent, c'est une belle chose. a fortiori aujourd'hui. Qu'est-ce que je retiens ? Que cette année, il y a un tiers des auteurs qui n'étaient jamais venus. Et ça, c'est quelque chose auquel on pense avec l'équipe. Je parle de fidélité, mais je suis assez content que dans cette édition, le public puisse découvrir des gens qui n'ont, voilà, qui sont jamais venus et qui parfois, comme Monica Sabolo par exemple, n'en sont pas à leur premier livre. Donc voilà, ça c'est une chose que j'aime. Vous dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes, Olivier Chaudançon vous l'a peut-être dit dans son interview, et qu'on ne l'a même pas fait exprès.
C'est bien, c'est une belle chose. On vous retrouve tout à l'heure, c'est dans la petite salle de Jean Le Bleu.
Ouais, à 18h avec le musicien Mathieu Bayot.
Et évidemment, on vous croise régulièrement aux correspondances. Merci encore Arnaud Catherine.
Merci à vous.
Il faut continuer, hein, ne pas faire du sophical, mais à continuer à écrire comme ça, comme vous le faites. À vos côtés, c'est Olivier Delahaye qui nous a rejoint. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous êtes en charge, vous êtes vice-président d'une belle association qui s'appelle Silence en lit, Silence on lit, et qui est une association qui est présidée par l'académicienne Danielle Salnave. Cette association consiste en quoi ?
Silence on lit consiste en fait à mettre ou remettre au cœur de nos habitudes le silence, les livres et la lecture.
C'est pour favoriser la lecture ?
Alors c'est pour favoriser, oui, mais c'est en fait c'est beaucoup plus que ça. C'est né de différentes choses en fait. C'est-à-dire on est trois à avoir créé Silence on lit. Danielle Salnave, donc qui est présidente, a toujours eu la lecture en ligne de mire. Pour elle, c'est une chose très très importante, et l'apprentissage de la lecture, puisqu'elle est petite fille de professeur. Elle a été elle-même professeure de littérature. Et elle a vu la lecture déserter, en fait, le monde scolaire et le monde de manière générale. Et il se trouve que moi, je fais des films, et j'avais été montré un film, un long métrage que j'ai fait sur la sagesse africaine, dans un lycée en Turquie. La directrice de ce lycée, turque, mais qui délivre une partie de son enseignement en français, m'avait invité. Et là, j'ai assisté dans l'après-midi à un moment absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un carillon. J'étais dans une salle de professeurs. Les professeurs qui étaient là ont plongé dans leur cartable, ont sorti un livre et se sont mis à lire. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils m'ont dit, oh, c'est notre moment de lecture. Et je sors, donc je dis, je peux voir, oui, tout le monde lit. Je sors, c'était un gros établissement, ça s'appelle lycée, mais en fait, c'est une cité scolaire. Et il y a 2000 élèves, 200, 300 adultes, et pas un bruit, pas un mouvement. Tout le monde lit, mais tout le monde. Donc je descends les escaliers, je passe devant le bureau de la directrice, elle est en train de lire. Je vois une femme qui fait le ménage, qui est assise sur une marche dans un couloir, qui lit, enfin, tout le monde lisait. Et j'ai trouvé ça, mais absolument bouleversant et magique. Et donc je suis rentré, j'ai écrit un article là-dessus. Je me suis dit, ça va intéresser l'éducation nationale. Je l'ai envoyé à quelques personnes haut placées dans l'éducation nationale que un de mes éditeurs, Belin, m'avait donné. J'ai pas eu de réponse. Et puis, un jour, quelqu'un m'a mis en relation avec Daniel Salnave. Je lui ai envoyé l'article que j'avais écrit. Et le soir, elle m'a appelé et elle était aussi bouleversée que je l'avais été quand j'ai assisté à ça. Et donc, elle nous a invités, la directrice du lycée turc et moi, à la foire du livre de Brive. Et là, en revenant, en fait, après quelques tables rondes, etc., on s'est dit qu'il y avait un véritable enjeu de société et que ça valait le coup de faire quelque chose pour remettre, effectivement, le livre au centre de nos habitudes.
Donc, et, en surtout, fait, on a... et surtout du milieu scolaire. Si
non. On a commencé par le scolaire parce que on se dit des enfants qui lisent, des enfants lecteurs vont devenir des adultes lecteurs. Mais en fait, le but, c'est même si pour l'instant on a essentiellement agi dans le milieu scolaire, on commence à avoir des demandes de prison. J'étais il y a 15 jours à Fleury-Mérogis. Là, on est en train d'essayer de monter un projet dans une prison au Cameroun avec une association camerounaise de gens qui veulent avec nous monter Silence on lit dans une des grandes prisons de Yaoundé. On a des demandes d'hôpitaux. Et l'idée de mairie, par exemple la semaine prochaine on est à Creil, qui veut mettre en place Silence on lit dans tous les établissements scolaires de Creil, et aussi à la mairie. Donc voilà, en fait ce besoin, tout le monde le ressent.
On a une chance quand même ici dans les Alpes de Haute-Provence, c'est de vous avoir, vous êtes un résident régulier de notre département.
Permanent.
Si on veut, encore mieux, si on veut rejoindre votre association ou en tout cas vous aider et suivre vos aventures.
Il faut aller sur le site www.silenceonlit.com et là, se laisser guider.
Et surtout se taire et lire, parce que c'est assez incompatible d'ailleurs le bruit et la lecture.
Il y a des gens qui lisent dans le bruit, dans toutes circonstances.
Personnellement, j'y arrive pas.
Le silence, c'est quand même plutôt. Et puis le silence, c'est demander le silence à tout le monde, c'est aussi créer un moment spécial. On sait que dans les minutes de silence sont des moyens de ritualiser et de sanctuariser certains lieux. Et donc demander le silence, c'est effectivement obliger tout le monde à se poser. On est dans un monde où on est tout le temps sollicité, essentiellement par les écrans, et on sait aujourd'hui à quel point les écrans sont nocifs. Faire le silence, c'est se retourner vers soi-même, faire le chemin de son intériorité, et effectivement se donner la possibilité du temps. Parce que en fait, on est dans un monde d'images, et les images, c'est presque le contraire du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde toutes les images de manière égale. Regardez un tableau de Rembrandt ou de Van Gogh et puis un selfie qu'on fait dans la Tour Eiffel, en deux secondes on a l'impression qu'on a décrypté, et c'est pas vrai. Mais on peut effectivement prétendre, et c'est ce que tout le monde fait dans les musées, les gens passent d'un tableau à l'autre, on passe devant la Vierge au Rocher, comme ça, hop, ah bah oui, on a vu, ok, oui, très bien. Non. Et le livre vous oblige à renouer avec le temps. Et ça, c'est évidemment très très important, donc c'est ça qu'on propose.
C'est une belle réflexion que vous venez de faire ici sur notre antenne, et c'est une belle chose parce que ça se déroule durant le Festival des Correspondances, et de mettre en correspondance le silence et la lecture, c'est une belle chose aussi. Merci encore Olivier Delahaye, puis
merci à vous.
Évidemment vous restez avec nous, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant des activités de votre association, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, importantes qui sont véhiculées par ce que vous faites.
Samedi, on fait donc un moment de silence en lit à 14h45 sur la place de l'Hôtel de Ville. Donc,
pas de problème.
Vous êtes conviés.
Peut-être qu'on y sera. Peut-être. Bon. Mais faire taire un journaliste de radio, c'est difficile, vous savez. Merci encore, Olivier.
Merci à vous.
Lui, il pratique pas beaucoup les silences, mais encore que, il utilise de temps en temps les silences. C'est un grand monsieur de la musique alternative dans notre pays, mais même ailleurs. C'est Théo Acola. Bonsoir. Bonjour, Théo.
Bonjour.
Théo Acola qui a accompagné hier soir un Jacques Bonafé complètement délirant dans une lecture de Bram Stoker sur Dracula. Comment est-ce que vous avez travaillé d'abord avec Jacques, qui est peut-être difficilement maîtrisable?
C'est joliment dit, pudiquement dit, et il est pas maîtrisable, tout simplement. Je pensais au début, autrefois, ici à Manosque, on a fait une lecture en musique aussi sur la route de Kerouac. J'ai découvert à cette époque-là qu'il n'était pas maîtrisable, et j'ai accepté. Le problème, c'est que lui s'imagine un peu que je suis un musicien de jazz qui sait improviser sur n'importe quoi, et c'est pas le cas. J'ai besoin de plus de structure, donc de mon côté, je fais ma propre structure et je lui indique les choses. De temps en temps, il a une idée, mais en général, il accepte tout ce que je propose. Et c'est vraiment qu'en jouant devant un public que je découvre si ce que nous avons colle ou pas entre nous. Puisqu'on répète pas avant. On n'a pas répété ce qu'on a fait hier soir. On a répété un peu pendant la balance, dans l'après-midi, le réglage de son et tout ça. Donc là, on sait un peu plus, mais c'est pas la même chose que de ce qu'on a fait le soir.
Alors, une petite question importante quand même. Vous le connaissez depuis longtemps, Jacques?
Bah, depuis qu'on a fait le Kerouac, c'était il y a 5 ans peut-être ici, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus.
Oui, peut-être. Donc, on avait reçu Jacques Bonafé à l'occasion, justement.
Oui, ben, je le connais bien dans ce travail parce qu'on a fait le Kerouac 7, 8, 9 fois en France. Et je pense qu'on va refaire le Dracula aussi. Il m'avait proposé une autre fois de faire une lecture en musique et je n'étais pas emballé par le texte, donc j'ai dit non. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour l'acteur Jacques Bonafé, donc c'était assez facile. Je ne suis pas fou de Dracula non plus, mais au moins ça m'amusait et ce qu'il fait avec m'amuse. Donc j'ai dit oui assez facilement.
Alors le spectacle d'hier, il était magnifique parce qu'effectivement, il a dépoussiéré complètement, il a fait exploser ce texte que tout le monde connaît, hein, l'histoire de Dracula, avec des personnages, en invitant deux personnes dans la salle pour rejoindre. Alors est-ce que c'était calculé ou pas, peu importe, ça faisait partie.
C'était prévu, mais pas travaillé à l'avance.
Très bien.
C'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé à l'arrivée, mais on l'avait pas travaillé avant.
Avec deux jeunes filles qui se sont fait vampiriser.
Elles étaient excellentes.
Elles étaient superbes et puis en même temps, elles se sont bien imprégnées de ce texte et puis avec ce chef d'orchestre incroyable qui est Jacques Bonafé qui était sur tous les fronts, aussi bien la lecture que la gestuelle, que la chanson, la musique. Il a même sorti une trompette à un moment. Vous saviez qu'il était musicien, Jacques ?
Vaguement musicien, oui. Et en plus, il a fait tomber la trompette pendant la balance. Donc, il y avait quelque chose de tordu. Donc, c'était pas complètement réglé, même le soir même.
Et il l'a dit d'ailleurs sur scène, il a dit, il y a une touche qui est coincée, je peux pas faire certaines choses. Donc là, on sent aussi la grandeur artistique de Jacques Bonafé, effectivement, de partager avec le public. En fait, on était à côté de lui pendant tout ce spectacle. Et vous, quand vous faites de la musique avec un texte et avec un comédien qui dit ce texte, comment vous trouvez votre place par rapport à ça?
Vraiment, Bonafé, c'est particulier. Normalement, ce que je fais, c'est plutôt des lectures en musique tirées de mes propres livres, mes romans. Donc, je règle tout comme je veux avec 2 ou 3 autres musiciens. La dernière qu'on avait fait, c'était avec Dominique Raymond, actrice que j'adore et qui était magnifique. J'en ai fait 2 avec elle. Et donc, j'ai une vision de l'ensemble et j'ai plusieurs cases à remplir avec guitare ou piano et avec mes associés violon et parfois accordéon un peu. Mais ça dépend du texte, mais c'est vraiment autre chose avec Bonafé.
Le fait de justement d'avoir une partition qui est relativement fixée, hein, figée, comme vous l'avez fait hier, vous êtes passé de la guitare au piano, il y avait aussi des sons qui étaient préenregistrés, enfin bref, c'est quelque chose qui est construit.
Il y a une espèce de partition.
Oui, voilà.
Je ne sais pas lire la musique, mais j'ai besoin d'une espèce de partition, une espèce de conduite que j'ai à peine avec Jacques, mais je fais ce que je peux.
Et ça tombait bien et puis en même temps il y avait cette complicité, Jacques venant de temps en temps vous voir, vous chantant aussi de temps en temps ou chantonnant, ça dépendait des moments.
Il m'a demandé à un moment de faire, il n'y a pas énormément de propositions mais j'aimais bien une, c'était de faire des vocalises. Donc à la place de vraies vocalises, comme vous dites, j'ai chantonné, j'étais etc. Et c'était plaisant à faire, et c'est pas dans mes habitudes.
Et Jacques, lui aussi, chantonnait en criant, en hurlant quasiment. Enfin bref, c'était un moment magnifique avec, il faut le dire aussi, des techniciens hors pair, aussi bien au niveau de la lumière qu'au niveau du son. C'était magnifique hier et je suppose que vous avez pris, Théo, beaucoup de plaisir à faire ce spectacle.
Mais quand surtout à partir du moment où je voyais que le public écoutait bien et qu'ils étaient plutôt captés, là, il y avait du plaisir. Avant, je me posais la question, est-ce qu'ils vont pouvoir suivre ce bordel? Et finalement, le retour était suffisamment chaleureux pour que, oui, c'était un plaisir.
C'était un grand moment, une grande inauguration spectaculaire pour les correspondances. Théo Acola, vous êtes une personnalité de la musique alternative, on va dire, dans notre pays.
Vous dites alternative. Moi, j'ai fait, avec mon premier groupe, 2 albums chez RCA. 2, ça, c'était Orchestre Rouge. 5 chez Barclay. donc Polygram, maintenant Universal, donc pas si alternatif que ça.
Oui, mais la proposition, c'est... elle, était oui. un petit peu différente de ce qu'on pouvait
entendre.
Peut-être
on dit ça par rapport à la nature de la musique qui n'est pas si commerciale, qui passe pas tous les jours à la radio, oui.
C'est ça. Quelle est votre actualité en musical, Théo?
Toujours en solo. Ça fait 25 ans que je fais des disques avec juste mon nom, même si j'ai un groupe magnifique pour faire ma musique sur scène. Mais le prochain album s'appelle Water is Wet et il sortira fin novembre.
De l'eau mouillée, quoi.
Oui, l'eau est mouillée.
Ah bon?
Une vérité, quoi.
Oui, c'est une vérité. Et oui. en même temps, vous êtes inspiré aussi par votre vie en France. Vous êtes américain, je le rappelle. Vous avez choisi de vivre aussi en France. Comment vous regardez les États-Unis actuellement?
Oh mon Dieu.
Oui, je m'en doutais.
Exact. C'est une douleur, c'est un cauchemar. On parlait tout à l'heure de cauchemar, enfin... hors micro, c'est un cauchemar. J'ai quand même connu le pire. J'étais formé par la politique beaucoup plus que la musique. C'est même comme ça que j'ai gagné ma vie autrefois, dans les années 70. J'ai jamais imaginé que les choses pouvaient être aussi graves, surtout après 8 ans d'Obama. L'élection d'Obama, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Et le retour en 2016 avec Trump était le contraire. Un cauchemar. Et pour beaucoup de raisons, enfin, je cherche la faute là où on peut... Je pense qu'à gauche, on n'assure pas assez, on a permis ça d'arriver. Donc, on va s'en sortir, d'après moi. Tous les jours, il y a autre chose qui fait qu'il va finir par peut-être être éjecté, même avant de perdre les élections de 2020. Mais
vous y croyez, vous, à l'impeachment? Vous y croyez?
Je pense que c'est possible. Et je pense que on est très partagé sur ces questions. Je pense que c'est obligé, même. Constitutionnellement, on doit faire quelque chose. On doit demander que le président ne brise pas la loi, comme on dit en anglais. He shouldn't be breaking the laws. C'est la dernière personne qui devrait avoir ce droit. Nixon n'a pas eu le droit. Je pense que Trump n'a pas le droit non plus. Mais c'est vrai que sa base est tellement grave. Enfin, les 38% des Américains qui croient encore à Trump, c'est ça peut-être mon plus grand problème. On a toujours eu des idiots pourris qui n'ont pas du tout le droit de prétendre à même gérer un pays ou une ville ou un État. Ça, c'est depuis toujours. Le problème, c'est qu'il y a autant d'Américains qui croient à cet idiot-ci. Et ça, c'est grave. Peu importe ce qui arrive à lui, il y aura toujours ces gens-là. Et je les connais, je viens de chez eux. Je viens de Trump Country.
En plus, oui. On va fermer la parenthèse politique, Théo.
Merci.
On va finir cette émission avec des notes un peu plus légères, je suppose. Vous avez amené de la musique avec vous.
Oui, pas si léger que ça, parce que c'est une chanson sur le suicide, inspirée d'un poème de Sylvia Plath, une suicidée. Et je pense que c'est à propos ici à Manosque, dans les correspondances, parce que je l'ai fait plus ou moins dans la lecture en musique du texte de Gwenaël Aubry, ici même, il y a 4-5 ans.
C'est magnifique.
Oui, c'était, son texte était Lazare, mon amour. Et donc, cette chanson-là s'inspire du poème de Sylvia Plath où elle raconte ses tentatives de suicide.
On va l'écouter en vous remerciant, Théo, et puis en remerciant également Olivier Delahaye, René Frény, Arnaud Catherine, et puis bien sûr les personnes qu'on a entendues dans notre émission. Rendez-vous demain à 11h pour une autre émission, peut-être même un petit peu plus tard, parce que on aura une émission un petit peu bousculée à cause d'invités qui risquent d'arriver un peu plus tard. On vous en dira plus demain, évidemment. Penchez-vous correspondance et branchez-vous fréquence Mistral. Merci aussi James pour la régie. Bonne journée à tous et on termine en écoutant Théo Acola dans ses œuvres. À demain.
Now I've gone and done it once again in a trio of decades. This one's my number 3. It It's a song I sing a year out of every ten in the peanut-crunching crowd. Shoves in to see me. Yes, gentlemen and ladies, step up for the big striptease. Farewell, flesh, hello, Hades. Take my hand, take me, please. First time it happened, I was 10. The second time I meant not to come back at all. But that actual event was no accident. Rock shut in a seashell. You know, I still heard them call. But with the third time the charm, I bought the farm. And now they have me pushing up daisies. Though ever miracle, this two-time miracle is done rising like a Lazarus lady.